de la Fondation Cartier à Paris, 7 milliards de voisins, Emmanuel Bastide.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI pour se parler chaque jour du nord au sud. Et aujourd'hui, peut-on raconter la société congolaise par ses artistes ? Inégalité, vitalité, violence, dérision, sapologie, article 15 ou système D. Les artistes sont-ils finalement les meilleurs conteurs de l'instantané congolais ? Peinture, collage, sculpture, photo. Eh bien, pour en parler, nous sommes en direct de la Fondation Cartier à Paris pour l'exposition Beauté Congo, 350 œuvres d'artistes de la République démocratique du Congo. Et puis pour démêler l'art et le chaos, comprendre qui nourrit quoi, il y a autour de la table des invités. Mega Mingyedi Tunga, artiste peintre. Bonjour Mega.
Bonjour.
Vous faites partie des artistes représentés à l'exposition Beauté Congo. Vous avez fondé aussi à Kinshasa le collectif ESA Possible pour que l'art contemporain né de la rue puisse rester dans la rue avec une vraie proximité avec les habitants. Vous nous en parlerez. Pascal Maître, photographe reporter, longue carrière en Afrique. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez beaucoup travaillé sur la vie au Congo et vous venez d'obtenir d'ailleurs il y a quelques jours le visa d'or et d'honneur au festival de photojournalisme Visa pour l'image, avec une photo monumentale d'ailleurs d'un bateau cargo sur le fleuve Congo qui fait combien de mètres cette photo?
C'est un assemblage de barges qui fait 450 mètres de long.
Ça, c'est impressionnant. Jean-Michel Champeau également parmi nous. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez beaucoup côtoyé, exposé les artistes lorsque vous étiez directeur du Centre culturel français à Kinshasa au début des années 2000, à la halle de la Gombe, et vous êtes aujourd'hui délégué général d'une exposition en préparation sur les artistes africains. Marie-Jeanne Serbin-Thomas, bonjour Marie-Jeanne.
Beauté Emmanuel.
Vous êtes rédactrice en chef du magazine Brune, dédié à la mode, à la création, partenaire de l'émission 7 milliards de voisins, le vêtement qui se décline à l'infini dans l'univers des sapeurs congolais, bien sûr. Et quand à vous les voisins et les voisines, n'hésitez pas à poster vos réactions sur Facebook, Twitter, parlez-nous de votre vie, de vos artistes préférés au Congo et bien sûr nous relayerons vos messages.
Émission spéciale en direct de la Fondation Cartier à Paris sur RFI.
Mega Mingyedi Tunga, vous avez 41 ans, vous faites des collages et des dessins depuis à peu près l'école primaire. Non, c'est ça?
Non, pas depuis l'école primaire, mais c'est quelque chose qui est dans le sang, c'est inné. Quand j'étais enfant, j'ai faisais beaucoup de dessins et après l'école primaire, je suis passé directement à l'école de Beaux-Arts. J'ai eu la chance de naître à 5 minutes à pied de l'école. Et après, quand je finis l'école de Beaux-Arts de Kinshasa, j'avais bénéficié de bourse pour aller continuer les études à Strasbourg. Et je fais le master, je finis et j'ai fait le choix, qui était un choix difficile à l'époque, mais aujourd'hui j'assume, de retourner à Kinshasa pour partager mon expérience de l'Occident avec les artistes émergents de Kinshasa.
Quand vous avez dit à vos parents que vous vouliez entrer à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, qu'ont-ils dit?
C'était pas difficile, en même temps c'était aussi facile parce que j'avais quelque chose déjà dans le sang, dans les mains, et ils m'ont donné cette carte blanche là de visiter l'école.
Ouais. Quelle est aujourd'hui la place des artistes dans une ville comme Kinshasa pour vous?
Kinshasa, c'est une ville monde, c'est une ville continent, c'est une ville pays. Kinshasa, c'est une ville des performances, ça bouge. Et la place des artistes à Kinshasa, c'est aussi, on est des gardiens des traditions et de la culture. Et Kinshasa, les artistes, ils sont quand même les témoins de l'histoire. Et on réveille un peu, on projette l'avenir, le passé, le présent. Et ça, on nourrit tout ça.
L'envers du décor est plus compliqué néanmoins, Jean-Michel Champeau, sur la place des artistes dans une ville immense comme Kinshasa.
Oui, certes, c'est évident, mais en même temps, vous avez cette créativité, cette richesse, cette énergie qu'on trouve rarement dans une autre ville, même dans une ville africaine. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, et ce qui a fait et qui continue de faire la beauté de Kinshasa, même si la ville n'est pas belle en elle-même. Il y a tellement de choses qui s'y passent, des choses totalement nouvelles, mais dans tous les domaines, dans tous les arts. On parle des arts plastiques, des arts visuels, mais Vous avez la mode, vous avez la musique, bien entendu. C'est même pas la peine de parler de musique. Je crois que la musique, tout le monde le sait. Non, mais le théâtre.
Les musiciens sont très reconnus, mais les artistes plasticiens, par exemple.
Ah si, c'est pareil, c'est pareil. Il y a une reconnaissance par l'ensemble de la population. Alors, quelquefois avec un rejet, puisque certains n'admettent pas la critique ou l'insolence ou ce qui est nouveau, mais d'autres, par contre, et surtout les jeunes, sont pleinement associés à cette créativité.
Pascal Maître, vous avez rencontré aussi à l'occasion de vos travaux photographiques des artistes.
Oui, j'ai eu la chance de passer plusieurs mois pour faire un travail de fond pour National Geographic, et donc j'ai passé beaucoup de temps avec les artistes, et c'est vrai que on a toujours ce sentiment à Kinshasa que les gens sont un peu comme le funambule qui fait du vélo sur le fil, que s'il arrête, il va tomber. Donc c'est la même chose pour les artistes. Et je voudrais juste parler de Boris Kingeles, que j'ai eu la chance de bien connaître, qui est ce plasticien extraordinaire. La première maquette qu'il fait, son cousin passe chez lui, il lui dit « Ah, allons vite la vendre, ils vont dehors, ils vont la vendre ». Il fait une deuxième maquette de ville, ils vont la vendre, ils se font arrêter, on dit « Où vous avez volé ça ?» D'où le malentendu, ils sont arrêtés assez longtemps, et à ce moment-là, il exige qu'un directeur du musée, qui était le père Cornet à l'époque, vienne voir, et il fait une démonstration sur place. Tout ça pour dire que dès la création, il y a une question de survie qui se met en route. Et cette dynamique ne s'arrêtera
et
jamais.
Et immédiateté aussi. Il faut aller vite.
Il faut aller vite. Et je pense qu'on ne me contredira pas. Chaque jour, les gens doivent trouver une solution pour vivre et survivre.
Là, une des premières expositions de Méga et des Impossibles, c'était Kinshasa, Mwenze. La pagaille.
L'installation Mwenze.
La pagaille, mais c'était leur première exposition et qui était une exposition extraordinaire.
Source d'inspiration, ce système D, cette pagaille, comme vous dites ?
Non, c'était juste quand on a fini l'école des beaux-arts à Kinshasa, on ne voulait plus continuer avec l'académisme, avec les canaux grecs, les programmes des années 50. On voulait faire autrement. Et on avait profité d'un incident qui était passé à l'école. On a essayé un peu de récupérer cet incident pour faire une autre chose, c'est-à-dire les étudiants à l'époque, ils avaient manifesté contre l'augmentation de frais. Ils ont brûlé de véhicules de l'école.
Tous les ans à peu près, ça.
Voilà, tout ça, c'était vraiment les chaos, les Caracas. Et nous, on avait fini l'école à cette époque. Et comme j'habitais tout près de l'école, je suis venu voir comment c'était la situation. Et c'était vraiment décevant et désolant. Et on a essayé un peu de demander au comité de gestion de l'époque de nous donner ces carcasses de voitures pour faire quelque chose. Et ils ont dit, c'est bien, mais jusqu'à présent, l'affaire n'est pas encore close au niveau de la justice. Il y a les inspecteurs qui viennent inspecter le lieu. Mais on vous donne la carte blanche, il y a l'espace, faites ce que vous voulez.
Même les manifs étudiantes vous inspirent.
Bien sûr, pourquoi pas.
De l'ombre jaillit la lumière.
Après, voilà, et on s'est rassemblés autour d'une table avec des amis pour essayer un peu de récupérer de gauche à droite des choses. On a installé plus de 200 carcasses de voitures dans l'école de Beaux-Arts. C'est déjà prendre des 100 carcasses, de mettre ça dans un espace, c'est déjà quelque chose. Et les rumeurs sont circulées vite jusqu'à chez Jean-Michel Champon. Il est venu nous voir le soir. Après, il nous a délégué quelqu'un. Après, on a fait notre truc. C'était passé bien. Et puis, ça donnait des succès. Après, voilà, c'est parti. C'était aussi une façon pour nous de ramener l'art tout proche de la population, parce que la population de Kinshasa, ils ont plus cette culture-là ou cette mers-là d'aller visiter des galeries ou des expositions. Et voilà, nous, en contrepartie, on a voulu bien remettre l'art tout proche de la population et faire des choses dans les espaces publics.
Voilà. Alors, comment l'art s'imbrique avec la vie quotidienne dans les villes congolaises? Dans cette exposition où nous sommes ici à la Fondation Cartier, il n'y a pas une seule femme artiste. Sont-elles moins visibles au Congo? Ont-elles une vie plus compliquée en tant qu'artiste? On va en parler, bien sûr. Marie-Jeanne, je vous dédie cette chanson avec un petit battement de cils en prime. Fabregas, Le Métis Noir, Mascara.
Brino Tandake de Marca Onia Rosa, Mama Rosa, sans mascara.
Je reste un naïe beauté naturelle qui t'en coya mascara.
Je reste un naïe beauté naturelle qui t'en coya mascara.
Je suis un naïe beauté naturelle
qui t'en coya mascara.
Je suis
un naïe beauté naturelle qui t'en coya mascara. Je suis un naïe beauté naturelle qui t'en coya mascara.
Feli Mabote DJ Mevle
congolaise Fabregas, le métis noir, c'est un jeune de Matete. C'est de la rumba 4e, 5e génération, je sais même plus ce qu'il faut dire. C'est un, la rumba est un genre qui se renouvelle sans cesse, Jean-Michel Champeau.
Ah oui, je suis complètement. Même je pourrais dire que en 15 ans de temps, j'ai complètement perdu pied. Je connais encore quelques grands noms, mais tous ces jeunes qui sont dans tous les quartiers. Il y a des rues à Kinshasa où sur trois maisons, vous avez une terrasse où vous avez de la musique et de la musique live. Donc il y a des nuits à Kinshasa qui sont sans fin.
Ouais, largement aussi visibles à l'œil nu que les artistes plasticiens, pour certains plus riches, hein, les musiciens que les artistes plasticiens, encore que. Je le disais juste avant, il n'y a pas de femmes dans cette exposition. Quelle est la situation des femmes artistes dans les villes congolaises, Pascal Maître?
Alors, il y a assez peu de femmes plasticiennes, il y en a quelques-unes. Je pense que la vie quotidienne, la vie familiale accapare très vite, malheureusement, la plupart des femmes qui pourraient se lancer dans une carrière artistique, mais il y en a quelques-unes. J'ai eu la chance de rencontrer Julie Djiquet, qui est photographe et aussi performeuse, et qui a toute une performance invraisemblable contre le réchauffement climatique, contre la voiture, c'est-à-dire elle s'enduit le corps d'huile de vidange avec des cendres de pneus. Elle utilise en guise de soutien-gorge des filtres à huile de moteur et elle conduit une minuscule petite voiture qui représente le fait que peu de femmes conduisent à Kinshasa pour aussi défendre la place de la femme.
Et vous avez fait une photo d'elle absolument incroyable.
Dans des conditions compliquées. Mais elle est incroyable. Lorsqu'on est photographe, c'est pas compliqué. Mais ce qui était assez incroyable lorsqu'elle faisait cette performance, c'est que tous les gens, toute la population courait avec elle parce qu'elle
conduit. C'était dans quel quartier ça?
Je me rappelle plus.
Voilà. Elle était connue dans son quartier.
Elle a fait une fois tous les 6 mois ce genre de performance et tout le monde courait avec. Certaines femmes étaient outrées de sa tenue, ne le comprenaient pas. Et il y avait une population énorme qui conduisait, il y avait une interférence entre elle et la population. Et c'était assez extraordinaire.
Il y a de plus en plus de street art. Et là, cette année, je crois que cet été, il y a eu...
Kin Act
avec Eddie et Kété.
Et le collectif ESA Possible.
Et le collectif ESA Possible, faut pas l'oublier.
On va en reparler. Marie-Jeanne Serbin-Thomas.
En fait, il y a aussi des femmes plasticiennes qui se tournent vers la mode. J'en ai rencontré plusieurs de Kinshasa parce qu'en fait, elles n'arrivent pas à exprimer leur art comme elles veulent. Donc, pour elles, la mode est finalement non pas un palliatif, mais aussi une voie de secours pour exprimer des choses qu'elles voudraient. Et elles font des choses assez extraordinaires. Et en fait, on ne sait pas de prime abord. C'est en discutant avec elles, au bout d'un certain moment, elles me disent, oui, j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts où je voulais être peintre, mais ce n'était pas possible, c'est compliqué. Donc, la mode est devenue pour elles, finalement, une façon d'exprimer aussi ce qu'elles ressentaient.
Alors justement, les sapeurs,
Jean-Michel Champeau. Moi, je vais vous donner trois noms, parce qu'il y a une femme qui est assez connue maintenant, qui a travaillé avec Vichois et qui qui travaille maintenant, qui est connu à, sur la place de Kinshasa, c'est Ange Swana, qui est très connu. Vous avez une jeune photographe qui s'appelle Gozette Lubundo, qui est pareil, qui a bénéficié d'un stage chez Vichwa Milambwe et qui vient de faire une série de photos sur la gare de Kinshasa et les wagons de Kinshasa. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Et vous en avez une troisième qui vit à Paris, qui s'appelle
Willis Kesey,
qui était avec Les Impossibles au départ Les Impossibles, ouais. Et qui vit à Paris et qui expose à Paris. Mmh. Donc voilà, il y en a tout de même. Il ne faut pas les oublier.
Mais non, mais bien sûr, et on leur rend hommage, bien sûr, aujourd'hui dans cette émission 7 milliards de voisins. On parlait de la mode, très finalement intrinsèquement liée hein, à l'art. Megha Mingyedi, les sapeurs font aujourd'hui partie de la scène artistique congolaise ou pas pour vous?
Oui, bien sûr, parce que les sapeurs, au départ, c'était juste une sorte de performances vivantes, des théâtres urbains, une façon de montrer des habits, des fringues, des griffes. Mais aujourd'hui, c'est aussi un concept qui sont mis en place avec une profondeur dans leur engagement. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont en train de donner une bonne image au niveau du Congo, au niveau de la culture. C'est aussi aujourd'hui, c'est la SAP, c'est considéré comme une expression artistique. Et vous verrez que beaucoup de sapeurs commencent à présenter des spectacles ou leur engagement au niveau de l'Europe, ainsi partout.
Palais de Tokyo
récemment avec Sadi et Yves Sambou. Donc ça commence un peu à donner quelque chose de nouveau.
Mais justement, pendant longtemps, les sapeurs, c'était le côté, alors la dérision, l'humour, le bling-bling. Mais ce bling-bling-là, que veut-il dire sur la société congolaise?
Non, c'est juste bien habillé, bien sapé, bien habillé, bien parfumé. C'était juste les objectifs de ces sapeurs. Mais aujourd'hui, ça change un peu ça change des formes, ça change des regards. Ils sont plus dans l'engagement par rapport à ces habits.
Il faut ajouter aussi que la SAP, c'est une façon aussi d'exister. Mmh. C'est-à-dire de dire, je viens d'une extraction très pauvre, parce qu'en général, c'est le cas. On se sape avec des fringues qui viennent souvent de la récupération. Tout le monde n'a pas la possibilité d'aller chez les grands couturiers. Donc, et ces assemblages,
même s'il y a le culte des grandes marques.
Voilà, il y a le culte des grandes marques.
On découle l'étiquette pour la coudre sur l'extérieur du vêtement. Hein.
Voilà. Moi, je me rappelle de Jo Ballard, qui était ouvrier chez Renault à l'époque et qui avait des chaussures Capo Bianchi qui valaient, à l'époque, c'était l'équivalent de 10 000 euros, mais qui vivait dans un studio qui faisait 10 mètres carrés et le studio était tapissé de vêtements. Et il me disait que c'était sa seule façon. En tant qu'ouvrier de chez Renault, on se serait jamais intéressé à lui. Mais à partir du moment où il se sapait, il avait ses chaussures extraordinaires, ses vêtements extraordinaires, il devenait quelqu'un. Il attirait les gens. Et il a créé tout un mouvement comme ça à Paris. Donc, c'est une façon, c'est un happening vivant. Mmh. C'est-à-dire, j'arrive, j'existe, j'entraîne des gens avec moi. Il n'y a pas forcément une philosophie derrière.
Il n'y a pas une hiérarchie avec les artistes, les plasticiens, les peintres, les sculpteurs.
Non, mais par contre, les peintres ont utilisé la sape dans leur toile. Les couleurs, aussi. En fait, la monochromie des couleurs, ce qu'on appelle les color blocks, sont une source d'inspiration dans toutes les toiles que l'on voit. C'est extraordinaire.
Et beaucoup d'artistes congolais sont sapeurs.
Oui,
Sherry Samba.
Vous êtes un sapeur ou pas?
Pas totalement sapeur, mais c'est quelque chose que voilà, je suis pas Tony, voilà, donc voilà. Et ce que je voulais dire par rapport à la SAP, c'est aussi une façon de se présenter, donc d'apparaître. C'est ça qui est aussi intéressant par rapport au sapeur, parce que au niveau ça vient de l'influence des musiciens, et les musiciens, ils sont dans le podium bien habillés avec les micros, mais les sapeurs avec leurs griffes.
Nous rendons l'antenne pour le flash. Bien sûr, vous restez tous avec nous. On n'a pas du tout achevé notre toile de la société congolaise. Les voisins, les voisines, postez vos réactions en direct, si le cœur vous en dit, sur Facebook, Twitter. Nous relayons vos messages à l'antenne. 7 milliards de voisins, retour dans un tout petit peu plus de 3 minutes maintenant. Restez avec nous sur RFI, bien sûr.
Émission spéciale en direct de la Fondation Cartier à Paris, 7 milliards de voisins, Emmanuel Bastide.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins en direct de l'exposition Beauté Congo à Paris à la Fondation Cartier. Comment les artistes racontent-ils finalement la société congolaise tout en étant une partie d'elle-même hein, et acteur de cette société congolaise dans son exubérance, dans sa dérision et dans ses douleurs couleurs? On en parle avec nos invités, Megamine Yeditunga, artiste peintre, vous êtes sculpteur d'ailleurs de formation, Marie-Jeanne Sabin-Thomas, rédactrice en chef du magazine Brune, Pascal Maître, photographe, reporter, Jean-Michel Champeau, ancien directeur du Centre culturel français à Kinshasa, où vous avez beaucoup exposé d'artistes congolais, et actuellement délégué général d'African Artists for Development, une exposition avec 54 artistes africains qui, elle, démarrera en novembre prochain. On va avoir énormément d'expositions pour les artistes africains, finalement, dans la capitale française, dans les mois qui viennent. Pascal Maître, vous souhaitiez revenir sur la difficulté au quotidien pour ces artistes d'émerger.
Oui, alors ce qui m'a toujours surpris lorsque j'ai passé beaucoup de temps avec ces artistes, je pense à Bodis Kingeles qui a une ville entière ici exposée à la Fondation Cartier, qui est extraordinaire, c'est de voir d'où cette créativité sort. Elle sort souvent d'endroits très modestes, avec très peu de choses. Et lorsque l'on voit le niveau de créativité de tous ces artistes, on se dit que nous, avec tous les moyens que l'on a à notre disposition de créativité, on doit créer. Eux, ils nous donnent une leçon extraordinaire du tout est possible, tout est création,
et ça possible.
Et ça, c'est une leçon formidable.
Et ça possible, c'est le nom de votre collectif, justement, Megamine Yedi.
Bien sûr.
Alors, comment ça fonctionne? Comment vous travaillez pour que l'art né dans la rue reste dans la rue et ne parte pas dans les galeries internationales uniquement?
C'est-à-dire, et ça possible avait mis un concept à place de ramener l'art tout proche de la population parce que il n'y a pas quasiment rien à Kinshasa du point de vue de ces fractures. Là, on peut montrer les travail des artistes, la production à part des privés, soit l'Institut français, Wallonie-Bruxelles et Goethe Institute, et quelques privés. Et c'est-à-dire, si je peux dire, à part ce qu'on a mis en place, chacun de nous en son travail personnel à côté.
Mais et nous, pas forcément à la halle de la Gombée.
Non, pas forcément. Il y a des privés, il y a des gens dans des quartiers quotidiens qui, voilà, il y a des centres qui se naissent. Mais aussi, il est possible avec constater que l'artiste n'est pas seulement quelqu'un qui peut être artiste dans son atelier, travailler pour le tourisme. L'artiste, c'est aussi quelqu'un qui peut être porteur d'un projet, qui peut être chef d'entreprise, ainsi de suite.
Mais ça veut dire que, par exemple, ces articles, vous les faites travailler avec des jeunes, avec des écoliers, avec des lycéens, dans la rue, vous allez dans des communes très populaires, par exemple, comme Matete?
La rue nous inspire. La rue nous inspire parce que il y a beaucoup de choses dans la rue. Quand tu es dans la rue de Kinshasa, c'est déjà une performance. Ça t'inspire parce que tu vois beaucoup de choses. Par rapport à d'autres villes, ça se voit pas. Mais à Kinshasa, quand tu es à Kinshasa, tout est là. Et puis, ce qui est intéressant pour nous, et c'est possible, on a mis aussi en place une concept, c'est-à-dire art et société, art et développement. Ça a rien à voir avec des galeries, c'est-à-dire vraiment aller tout proche des gens pour essayer de d'échanger avec des gens, faire intervenir la population à travers nos pratiques, parce que tout ce qu'on produit comme art, ça se montre pas à Kinshasa, c'est seulement en Europe, en Occident, ainsi de suite. Les gens qui sont tout proches de nous, on nous appelle les artistes, mais ils connaissent pas notre travail.
Est-ce que chacune de vos œuvres, pour vous, pour les autres artistes du collectif Esa Possible, Megamine Yedi, il y a un message, vous avez envie de dire quelque chose sur la société congolaise, mais aux citoyens congolais aussi. Je prends l'exemple de votre œuvre qui est exposée ici à Paris, à la Fondation Cartier, Les Voyageurs de l'eau, qui est juste derrière la table où nous sommes assis.
Ouais, l'artiste n'est pas seulement quelqu'un qui peut construire la ville, mais l'artiste, c'est pas le rôle de l'artiste, mais l'artiste, c'est aussi quelqu'un qui peut poser des actes, qui peut changer aussi les regards.
Les voyageurs de l'eau, qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers ce collage?
Non, par rapport à les voyageurs de l'eau, c'est une expérience par rapport à la ville de Lubumbashi, qui est le deuxième ville économique du pays. Et moi, j'ai fait 3 fois Lubumbashi, j'ai constaté il y a une sorte d'inégalité à fond sur cette ville à partir des sociétés multinationales ou soit des bailleurs de fonds qui essayent pas mal de comment dirais-je d'ouvrir des choses, de développer des choses, mais en contrepartie, c'est donnant. Il y a plus de gens qui contribuent pour le développement de cette ville, mais j'ai remarqué en Trique, par exemple, dans le village de Mokocha, je sais pas si Jean-Michel peut me contredire, et il y a, quand tu es dans ce village, tu verras qu'il y a une autoroute qui fait Kasumbalé, ça jusqu'en Afrique du Sud. C'est pas construit par des Congolais, c'est construit par des multinationaux, mais ce que j'ai remarqué, quand tu es dans cette autoroute, il y a des véhicules qui rentrent et qui chassent à vide, mais qui sortent pleins avec des choses. Mais et à contrepartie, c'est aussi ça. Et 70% de cette population n'a pas d'eau potable, n'a pas l'électricité. Donc voilà. Donc tout ça, c'est, ça nous parle des matières à travailler. Ça nous donne un peu cet héritage-là de construire, de travailler, de parler du Congo autrement.
Pascal Maître, vous les connaissez bien, ces mots du Congo MAUX qui inspirent les artistes, la corruption, la malgouvernance, et des œuvres aussi qui parlent des enfants soldats, les Kadogo, les femmes violées.
Un artiste formidable qui a vraiment traité ces mots, je pense à Freddy Timba, qui a fait des statues sur le viol avec des statues monumentales, avec tout en balles. Il a fait des maisons entières faites en machette contre tout ce qui s'est passé dans l'Est du Congo. Il y a vraiment, je pense que les artistes proposent une radiographie de la société congolaise et de tout ce qui s'est passé dans ces 30, 40 dernières années.
La récupération des armes de guerre, ça c'est quelque chose aussi qu'on voit dans d'autres pays qui ont connu ou qui connaissent encore des conflits. Oui, le Mozambique, exactement, je me souviens. Fauteuil fait entièrement avec des kalachnikovs refondus pour partie.
Freddy Simba, actuellement, traverse une période assez difficile, puisque on lui reproche justement de donner une image négative du pays à l'étranger avec ces femmes enceintes dont les corps sont percés.
Et c'est qui le lui reproche finalement? Les Congolais eux-mêmes?
Les autorités congolaises. Il parle de choses qu'on souhaite pas entendre à Kinshasa et dans tout le pays. Mais ce que je voulais dire par rapport à tout à l'heure, la proximité et l'artiste dans la rue, l'artiste dans la ville, c'est une réalité qui maintenant commence à disparaître un tout petit peu. Dans la mesure où beaucoup d'entre eux sont dans le marché de l'art occidental, et c'est très bien. On va pas le reprocher. Ils en vivent, tant mieux. Mais en même temps, tout ce qui est, par exemple, Chéri Samba, qui est le grand de la peinture populaire congolaise. Moi, j'ai connu Chéri Samba moqué. Il peignait dans la rue. Il y avait des toiles qui étaient dans la rue. Les gens voyaient l'artiste travailler. Maintenant, Moké est décédé, mais Chéri Samba, il est enfermé dans son château, et quand il travaille, c'est souvent plutôt en Europe qu'à Kinshasa. Alors, il y a des jeunes collectifs qui se sont montés, il y en a plein. Ça n'arrête pas. Les jeunes se regroupent en collectif et ils ont tous envie de faire connaître leur création sur place. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que la langue, le Lingala, inspire les musiciens, mais également les plasticiens. Et on retrouve cette beauté de la langue. C'est des gens qui expriment leur quotidien, leur réalité, par des mots qui sont très poétiques. Et cette poésie, vous la retrouvez, par exemple, là, vous avez Kiripi qui est en face de nous, qui est malheureusement décédé. Les photographies de Kiripi, quand on voit le Kinshasa de Kiripi, c'est magnifique, c'est poétique, c'est extraordinaire.
Est-ce que vous reconnaissez, vous, Megamine Guédi, dans parfois le fait de se sentir pris en étau entre la crainte de donner cette image d'un Congo à feu et à sang, en tout cas extrêmement dur, râpeux, hein, et puis en même temps l'envie de donner cette image d'un Congo de la dérision, de l'humour, de la distance. Vous vous sentez parfois entre deux choix?
Oui et non, ça dépend de moments, ça dépend de
votre humeur aussi,
ouais,
peut-être de votre état d'esprit,
ça dépend aussi des contextes. Moi, je dirais non, c'est normal. Moi, je m'inspire de faits des sociétés et je m'inspire de tout ce qui est des situations politiques, des humours, de divorce, de transport, tout cela.
Ça, vous lisez par exemple la rubrique des faits divers dans la presse congolaise, où il y a quand même parfois des événements assez hauts en couleur.
Bien sûr, mais c'est une réalité. Ça fait partie de notre vie, ça fait partie de toute la globalité de ce qui nous inspire.
Il y a des artistes, je ne sais plus quel est cet artiste qui s'inspirait des accidents d'avion, Jean-Michel Champeau.
Ah, il y a Baudot qui a fait...
Le ciel congolais est tristement célèbre pour ses accidents.
Baudot, mais pratiquement tous les peintres populaires, ils ont tous les accidents de la route. Vous prenez Mocquet, l'œuvre de Mocquet, mais il raconte le quotidien du quinois moyen. C'est tout, c'est l'adultère, c'est les artistes... les professeurs qui draguent les petites filles à l'école, enfin c'est tout, toute la vie de Kinshasa y passe.
Je vous lis un message d'Edwin qui vient d'être posté sur notre fil Facebook, qui est à Kinshasa et qui nous remercie pour cette émission, mais qui nous dit: sans l'art, les Quinois seraient devenus fous tellement il y a des problèmes. Respect aux artistes. Vous êtes une forme de médicament.
Ouais.
C'est pour parier Jacob Desvarieux.
Méga.
Oui, c'est une réalité parce que à Kinshasa, l'art fait partie d'une thérapeutique de cette population et les gens ils sont curieux de voir tout ce que les artistes font. C'est pas seulement dans l'art plastique, il y a aussi les théâtres, il y a aussi la musique, il y a beaucoup de choses.
Jean-Michel Champeau nous parlait de cette professionnalisation accrue des artistes, hein, et en même temps tant mieux, l'accès à la scène internationale. Est-ce que Pascal Maître, parfois vous vous inquiétez d'un possible vrai divorce avec la rue quinoise, ou le Boumbashi d'ailleurs?
Pas du tout, et il y a aussi un aspect dont on n'a pas parlé qui moi m'a toujours beaucoup marqué, c'est la tradition. Vous prenez une ville comme Kinshasa, qui après tous les conflits, toutes les ethnies sont venues de tout le Congo à Kinshasa, et vous avez des quartiers suivant les grands groupes ethniques. Et dans ces quartiers, on continue à faire toute la tradition, les fêtes d'initiation avec du corporel, d'une beauté à couper le souffle. Et je suis sûr que les artistes ont pris une part de leur inspiration dans leur enfance, sur cette scène-là, qui est fondatrice et fondamentale.
L'art dans les villes congolaises, dans la société congolaise, l'art est dans la ville, vous nous le disiez, et dans la vie en même temps, rentre dans les interstices de la survie, miroir et acteur de la société congolaise, avec aussi, on n'a pas encore vraiment parlé de ce système D, de cet article 15, comme on dit en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ça signifie aussi pour le quotidien des artistes? On y revient, ça sera juste après Staff Benda Bilili, bien sûr.
Beauté Congo, émission spéciale en direct de la Fondation Cartier à Paris.
Atika la mana etike, papa la mama bakufa kala, papa lo ba elo pa moto kosi mate, mana yo katoli yo bima suka bele. Tika la mana etike, papa na mama bakufa kala, papa longa elo kwa moto kosi mate, mwana yo katoli yo bima suka pende.
Y la rianga bobanga mendo.
Le célèbre groupe de musiciens aujourd'hui séparés, d'ailleurs une partie d'entre eux sont lourdement handicapés. Staff Benda Bilili, parmi ces musiciens, il y a cet instrument incroyable, une boîte de conserve bricolée que vous connaissez, Jean-Michel Champeau, hein, et qui...
c'est l'œuvre de Bebson de la Rue. Il porte bien son nom, Bebson de la Rue, et son groupe Trionique. C'est la plupart des instruments, la batterie, les percussions sont créés localement. C'est le système D, mais il fait des choses extraordinaires.
Système tout D, pour une chanson, connaît. Un message, hein. Kuluna, ce sont les enfants des gangs Akin qui sèment la terreur et qui dit aux jeunes du quartier, faites pas de bêtises, hein. C'est bien ça, mes gars. Hein.
C'est pas seulement les enfants des gangs, mais c'est des gangs. Ouais. C'est des jeunes qui ont du mal à se retrouver dans la société et ils ont pas des boulots et ils s'improvisent pour faire des gangs.
Et ils détruisent les habitants.
Ils détruisent beaucoup de choses et ils créent des paniques. Mais aujourd'hui, ça commence un peu à baisser parce que l'État a pris des choses en main et les colonnes, il y a maintenant beaucoup de centres de formation pour les jeunes qui sont un peu ça et qui rentrent dans des petits boulots, des métiers informatiques, mécaniques, ménagerie, ainsi de suite. Ça commence un peu à baisser pour le moment qui chasse. Mais les colons, hein, c'est un comportement qu'on ne peut pas tolérer.
En tout cas, dans cette chanson, il y a tout. Il y a résilience, message social, dérision, système D avec les instruments. Le système D, j'aimerais bien qu'on en parle aussi pour le quotidien des artistes et des créateurs, notamment dans la mode, parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui ont envie d'émerger. Il y a ce désir tellement inassouvi des habitants à Kinshasa, mais pas seulement, à Lubumbashi aussi, d'ailleurs à Goma, de la SAP. C'est pas simple pour créer.
Non, ce n'est pas simple parce que dans un pays de près de 60 millions d'habitants, hein, peut-être 61, je ne sais pas, on en est seulement à la troisième Fashion Week à Kinshasa et elle a beaucoup de mal à s'imposer, à démarrer. D'abord, il y a beaucoup de créateurs qui sont partis à l'étranger, donc on peut parler de Chéri Samba qui est resté, mais aussi malgré son talent et malgré des années de pratique, qui a des difficultés véritablement à avoir une reconnaissance qu'il pourrait vraiment escompter. Donc
sur la mode, alors, sur la création vestimentaire.
Alors, ce n'est pas aussi intéressant que ça, parce que bien souvent
ça, c'est
les spécialistes
qui parlent.
Bien souvent, les créateurs se contentent de prendre des modèles occidentaux et de les, en fait, de troquer un petit peu le pagne sur les modèles occidentaux.
Si on compare une ville comme Kin et Lagos, par exemple, des villes tentaculaires,
ça n'a rien à voir. Oui. Parce que ce sont des villes qui sont tentaculaires. Je crois que Kinshasa, d'un bout à l'autre, est des villes les plus longues du monde. Hein. C'est plus de, je crois que, en plus, il n'y a pas de banlieue de Kinshasa. Oui. Tout est Kinshasa. Donc déjà, c'est un problème. Mais il n'y a pas. Lagos, en fait, profite finalement de l'engouement qu'il y a aussi dans les pays occidentaux comme l'Angleterre, comme les États-Unis, de la diaspora qui emmène un savoir-faire.
Alors et qui a envie de wax revisiter.
Voilà, qui a envie de wax revisiter.
De rebondir sur de la tradition.
Bien sûr, et surtout qui a envie d'apparaître à l'international, c'est-à-dire que de travailler pour la clientèle locale, mais aussi pour la clientèle internationale. Alors qu'à Kinshasa, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, le quotidien est compliqué pour les gens. La vie est très chère pour le commun des mortels. Hier encore, je parlais avec une amie, elle me disait, mais écoute, on paye tout en dollars et c'est horrible parce que ça nous revient très, 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 très cher. Donc, et ça me fait penser un petit peu au film, au documentaire qu'il y avait justement sur Benda Bilili, parce que on voit que ces musiciens qui ont un talent extraordinaire, qui vivaient dans des conditions quand même très, très difficiles, et c'est un euphémisme. Je me rappelle, il y avait une scène où il y en a un qui était en pleine rue sous une tente, sous la pluie, avec sa femme et son bébé. Et le lendemain, il prenait un avion pour aller en Europe pour jouer. Donc, je ne dis pas que tous les artistes sont dans des conditions difficiles, mais la population déjà est dans une condition difficile et ça joue effectivement sur l'art. Mais aujourd'hui, il y a quand même, on sent qu'il y a des frémissements, qu'il y a des jeunes artistes qui commencent à émerger et qui ont un potentiel. Mais dans un environnement difficile, il est très compliqué d'avoir son potentiel s'il s'exprime complètement.
Alors sur les artistes plasticiens, Jean-Michel Champeau.
Je ne partage pas tout à fait ce point de vue. Je pense que, par exemple, tous ces artistes qui sont exposés, ils sont tous à Kinshasa, ils sont tous rentrés à Kinshasa. Ils pourraient rester en Europe sans grande difficulté. ils rentrent tous. Vous avez des chorégraphes qui sont mondialement connus, qui tournent aux États-Unis, en Chine, au Japon, et qui se sont installés, qui ont développé un centre culturel et de chorégraphie à Kisangani. Donc vous avez ces gens qui sont très liés à leur pays, à leur ville, à leur tradition, et en même temps qui ont une expression et une démarche artistique très contemporaine, mais et qui est de plus en plus reconnue à l'étranger.
Très concrètement, Megamine Guédi, pour un artiste peintre, si un artiste qui fait pas de récup, vous avez beaucoup parlé de la récup, mais là, il faut de l'argent quand même pour acheter des tubes de peinture, pour acheter des pinceaux. Comment vous travaillez, vous tous? Alors vous commencez à être connus, donc c'est pas un problème. Les autres,
ça dépend des artistes, ça dépend aussi des techniques et des concepts mis en place par la personne qui est en train de produire.
Oui, d'accord, mais le matériel artistique est très coûteux, y compris en Europe.
Bien sûr, c'est très coûteux, mais il faut avoir aussi d'autres alternatives, c'est-à-dire il y a beaucoup des artistes qui sont plus dans les récupérations, mais il y a aussi d'autres artistes qui ont un peu de moyenné par rapport à tous ces matériels qui est quasiment absent au niveau des Kinshasa.
Alors comment font-ils?
Il y a d'autres artistes qui profitent quand ils sont dans des voyages en Europe pour acheter des choses, ou soit à Kinshasa on trouve aussi des matériels locaux, genre de peinture,
des pigments, des choses comme ça.
Des pigments, voilà, et autres. Donc pour les matériels, c'est pas seulement les matériels qui fait l'artiste, et l'artiste peut aussi jouer beaucoup de choses pour exprimer. Voilà.
C'est important qu'il puisse se déplacer. C'est évident. Et il se déplace maintenant. C'est pas toujours facile, la preuve. Il n'a pas pu venir pour le vernissage, pour des raisons d'obtention de son visa. Mais ils les obtiennent, leur visa, maintenant, les artistes, un peu plus facilement que d'autres. Et surtout, ils se déplacent sur le continent africain. Par exemple, Steve Bandoma a vécu très longtemps à Cape Town, où il a travaillé, où il a exposé. Beaucoup de galeries sud-africaines exposent des peintres de Kinshasa. Vichoua est exposé à Johannesburg.
Là, on parle de peintres qui sont sortis de l'anonymat. Mais pour tous ces jeunes qui rêvent de peindre, de créer,
il y a 10 ans,
Vichoua
n'existait pas.
Oui.
Donc, ce sont des gens qui sont sortis de la rue. Eux sont sortis, c'est pareil, il y a 10 ans. Donc maintenant, il y a une nouvelle génération que moi je ne connais pas, mais qui sort. Je veux dire,
une génération issue de la culture urbaine des grandes villes.
Et aussi de l'école des Beaux-Arts.
Et aussi de l'école des Beaux-Arts. C'est pas seulement notre génération qui a influencé pas mal de jeunes ou beaucoup des collectifs, mais il y a aussi, on a quand même la chance d'avoir une école à Kinshasa, que je salue toutes les maîtres et des enseignants qui nous ont donné un coup de pouce par rapport à ça. Donc voilà.
Et on arrive au terme de cette émission, Marie-Jeanne Serbin-Thomas. Que vous inspire cette exposition? C'est une exposition qui a été très visitée d'ailleurs par la communauté afro, qui se retrouve aussi dans ces expositions qui sont encore trop rares, mais on est dans une exposition qui reste parisienne, bien sûr.
Oui, bien sûr. On espère que, comme les livres ou comme l'histoire de l'Afrique, on n'ira pas à Laval ou à New York pour voir les expositions de l'Afrique, et que ces expositions vont aussi tourner sur le continent, parce que c'est le gros problème. Nous n'avons pas assez de galeries, je ne sais même pas s'il y en a à Kinshasa, c'est aussi le problème. Il faut que l'Afrique aussi s'approprie ces artistes, qu'elle les reconnaisse et qu'elle les voit surtout.
Il y a des collectionneurs, des collectionneurs africains qui achètent l'art de Kinshasa, enfin des artistes de Kinshasa et d'autres. Il y a encore trop peu de collectionneurs africains, bien qu'il y ait de l'argent, et que cet argent va plutôt vers d'autres arts.
D'autres priorités.
D'autres priorités. Comme c'est bien dit. Vous voulez dire les nouvelles technologies, par exemple. Megamine Guédi, on arrive au terme de cette émission. Votre choix est le plus cher, finalement, pour la suite de cette expo?
Oui, moi je dirais, par rapport à cette expo, c'est aussi, pour moi, c'est une valeur ajoutée par rapport à la création congolaise. Et puis, j'aimerais bien que l'expo reste pas seulement ici à Paris, pourquoi pas circuler dans le monde, et particulièrement à Kinshasa, parce que ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de polémiques. Il y a beaucoup qui ont récupéré ça dans le cadre politique. C'est aussi intéressant, c'est qu'on produit ici, que ça soit aussi montré à Kinshasa.
Moi,
c'est que
je trouve. Moi, c'est que je trouve pour Kinshasa.
Moi, allez. Pardon.
On vous avait une idée de lieu là, si on transportait cette exposition à Kinshasa?
Bien sûr, les lieux. Il y a le musée. Il y a le musée de l'échangeur. Et voilà, à Limité, c'est une grande espace. C'est aussi important. Pourquoi pas à cet espace-là. Et aussi, pourquoi pas Palais du Peuple.
Palais du Peuple.
Voilà, Palais
bon,
du
le
peuple.
Message est passé. Siège de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Ce que je peux ajouter aussi.
Ça ferait du bien aux élus, non, finalement?
Oui, ça peut-être. Fait du bien parce qu'ils sont tous venus ici en vacances.
Et avec des bus scolaires pour amener la jeunesse.
Hein. Bien sûr. C'est que je peux ajouter aussi par rapport à cette expo. On a constaté qu'il y a 30% de population, des gens qui ont visité cette expo, ce sont des Africains. C'est ça qui est extraordinaire.
Et qui vont en parler chez eux. Merci à vous tous d'avoir été autour de cette table. Beauté Congo, à ne pas manquer pour les voisins qui passent par Paris. C'est jusqu'au 10 janvier. L'exposition est prolongée, vu son succès à la Fondation Cartier, quartier de Montparnasse. Beauté Congo est à retrouver aussi sur notre antenne. De nombreux rendez-vous Afrique Midi, art et politique au Congo, ce sera le sujet d'Afrique Midi. Bien sûr, Couleur Trop ce soir avec une brochette de musiciens congolais. Sans oublier, vous m'en direz des nouvelles, Jean-François Cadet avec Chéri Chérin, Ambroise Gemoko. Merci à toute l'équipe, Éléonore Krenik, Camille Néran, Romain Dubrac, Marc Fiché, Bertrand Éclair. Vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins. Demain, 7 milliards de voisins, vous saurez tout sur la communication sans violence au travail, dans la famille ou le voisinage. Savoir parler au lieu de frapper, ça peut servir. Vos questions, vos témoignages dès maintenant au 33 1 84 22 71 71.